Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Inspiré d'un fait divers réel survenu à Montfermeil en octobre 2008, le film Les Misérables se dirige en un petit mois seulement vers les 2 millions de spectateurs et est en passe de devenir un véritable phénomène de société. Choc, coup de poing, chef-d'œuvre de réalisme, du Monde à Paris Match, aux Échos et au Figaro, le film a produit une unanimité peut-être unique dans l'histoire récente de la critique, puisque même Valeurs Actuelles y est allé de son compliment et voit dans Les Misérables un film nécessaire. Tandis qu'Emmanuel Macron se dit bouleversé par le film, son réalisateur Ladjely, natif de Montfermeil, est comparé à Jean Renoir par Éric Neuhoff dans Le Figaro, avant de s'envoler pour Los Angeles, où le film représentera la France aux Oscars l'année prochaine. Deux accros cependant à cette trajectoire parfaite, les propos très polémiques vite retirés de Ladjely au site Blog du Cinéma, et surtout le matin même de l'enregistrement de la présente émission, la publication dans le journal d'Elisabeth Lévy Causeur d'un article assez incendiaire signé Anne-Sophie Nogaret, qui a fait le tour du net depuis et affirme que Ladjely aurait été condamné en 2012 à 3 ans de prison pour enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. L'affaire a depuis donné lieu à beaucoup de commentaires, mais l'émission qui suit a été enregistrée dans la foulée, donc avant le communiqué de Ladjely et de ses avocats niant la condamnation pour tentative de meurtre. Ce communiqué a néanmoins confirmé la condamnation de Ladjely pour enlèvement et séquestration dans le cadre d'une expédition punitive à forte connotation sexiste. On ne va pas reprendre la question souvent posée en ce moment de savoir si une œuvre peut être séparée de son auteur. On va plutôt s'interroger pour savoir ce que nous dit le succès de ce film et sa complexité sur la France d'aujourd'hui et peut-être aussi sur la presse. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Anne-Sophie Nogaret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de La Déséducation nationale.
Le titre est Du mammouth au Titanic. Du mammouth au Titanic. La Déséducation nationale.
D'accord. Vous tenez le blog Décadrage sur Internet et vous êtes collaboratrice, entre autres, à Causeur. Et c'est donc par vous que le scandale est arrivé aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Laurent Carpentier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde et vous avez interviewé Ladjely au moment de la sortie du film ou à Cannes?
Non, je l'avais rencontré bien avant, en fait, l'année dernière. Par Damien Bonnard qui m'avait montré le court-métrage, car avant d'être un long métrage, Les Misérables, c'était un court-métrage. Et après ce court-métrage qui était très séduisant, qui est d'ailleurs étonnamment différent et en même temps semblable, et qui avait eu des prix d'ailleurs, j'ai été intéressé par le fait que Ladjely faisait un travail sur le territoire de Montfermeil avec une école de cinéma. J'ai été le rencontrer à Montfermeil, nous avons traîné dans la cité, si je puis dire, la cité qui est entièrement en train d'être refaite. Mmh. Beaucoup d'argent a été investi et à ce moment-là, on parlait du film qui était en train de tourner et il m'a dit on va peut-être aller à Cannes. Et donc, on a attendu Cannes pour publier la grande enquête que
D'accord.
j'ai fait avec lui.
D'accord. Catherine Ball, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Parisien.
Tout à fait.
Vous avez aussi rencontré Ladjely. Vous avez aussi interviewé des policiers au moment de la sortie du film, sur le film.
Voilà. J'ai rencontré Ladjely à Cannes, juste après avoir vu le film en projection officielle. Et puis, on s'est revus à Paris. J'ai revu le film aussi juste avant la sortie. Et effectivement, dans le cadre de la sortie, on a donné la parole aussi à d'anciens policiers de la BAC.
Voilà. Et enfin, Xavier Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire d'Hiver Droite de Montfermeil. Et c'est par vous que je vais commencer parce que ça montre justement l'étendue de l'enthousiasme. Je vais citer des extraits de l'article que vous avez publié dans Le Figaro sur Les Misérables. Ce film est puissant, juste et vrai, puissant par la technique cinématographique employée qui sert magistralement le sujet traité, juste et vrai car pour Ladjely, le moteur de ce film est cette bavure policière dont il a été tout comme moi témoin, j'étais présent lors du procès pour témoigner des circonstances du moment, les lieux, les personnages, les situations, les interactions entre personnes, communautés et institutions sont bien réelles, nul ne ressent indemne de cette projection où l'on ressent au plus près qu'il soit possible la vie quotidienne de milliers d'habitants de tous horizons plongés dans le dédale d'une cité laissée à elle-même, dont toutes les institutions sont absentes, sauf la police, etc. Alors, faut préciser, pour bien comprendre le poids de ce que vous écrivez, que vous avez été favorable à un rapprochement entre la droite et le Front National. Vous avez déclaré à Radio Courtoisie en 2012 avoir des élus de cette sensibilité dans votre conseil municipal. Vous avez soutenu Robert Ménard. Vous avez été invité par ce dernier au lancement du mouvement Host à droite. dont vous avez dit approuver la quasi-totalité des 51 mesures de la plateforme. Et vous avez également signé une tribune dans Valeurs Actuelles en septembre 2016 avec Charles Becbédé, Roland Hureau, Patrick Louis, Robert Ménard justement, et d'autres, dans laquelle vous appelez la droite à proposer des mesures de droite articulées autour de la souveraineté, de l'identité et de la liberté. Et vous êtes très enthousiaste sur le film de Lajli.
Je ne vois pas en quoi cela peut être contradictoire.
Non mais c'est intéressant.
Peut-être, je l'ignore, mais si vous me le dites, je vais y faire attention. Je voudrais d'abord revenir sur la véracité du film, mais oui. Véracité datée, c'est ce que je dis aussi dans la tribune du Figaro. Je dis tout ceci aurait pu être tourné à Montfermeil, à l'identique de ce que l'on voit dans le film, il y a 15 ans, avant que Jean-Louis Borloo, avec l'Agence nationale du renouvellement urbain, ne produise des effets sur l'urbanisme de nos villes. Et aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Et lorsque nous avons projeté ce film devant 600 Montfermeillois, j'ai dit c'est un film d'espoir. Non pas que ce qui est vu et décrit est digne de beaucoup d'espérance, c'est, je dirais, ça pose plutôt des questions, mais c'est digne d'espérance au regard du chemin parcouru entre mmh. une situation réelle à Montfermeil 15 ans avant et ce à quoi nous sommes parvenus aujourd'hui, même si les choses restent précaires, compliquées, etc., mais ça n'a plus strictement rien à voir. Et je dis, je suis un de ceux qui refusent l'opposition entre l'urbain et l'humain. L'urbain est un préalable à tout, mais insuffisant en lui-même, mais si vous ne commencez pas par redonner dignité et fierté par la qualité de l'urbanisme, de l'architecture et de l'espace public, toutes les politiques de sécurité, éducatives, sociales, culturelles ou autres ne peuvent absolument pas imprimer et ne produisent aucun effet. Donc c'est, voilà, de surcroît, sur la dialectique, mais ce n'est pas une dialectique justement, c'est beaucoup plus subtil que ça, entre la police et le quartier et la population. C'est grave. L'accusation portée dans ce film est grave au niveau des institutions absentes, mais au niveau de l'institution police, qui est la seule à pouvoir, à certaines conditions, rentrer dedans, et des hommes qui incarnent ces policiers, je trouve que c'est assez juste, parce que je dirais que ces gens-là sont mis dans des situations inextricables, chargés de sujets qui ne sont pas les leurs. Et voilà. Et vous faisiez référence à cette bavure
qui est à l'origine du film.
À l'origine du film, qui a été le moteur psychologique de ce film. Je me suis retrouvé effectivement au tribunal correctionnel pour témoigner, certes, qu'il y avait eu bavure, mais en même temps que les conditions dans lesquelles, le soir après soir, la police intervenait, on avait l'hélicoptère avec les projecteurs, on avait les camions avec les halogènes et les groupes électrogènes pour éclairer les façades et voir d'où sortaient les projectiles, etc. Des mêlées extrêmement confuses avec beaucoup de blessés dans les forces de l'ordre. C'était inextricable comme situation. Voilà, donc c'est ça la réalité. Et elle est assez justement, je dirais, rendue, je crois qu'il faut le dire. Voilà.
D'accord. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est par rapport à la question de l'espoir, parce que effectivement, le film véhicule un discours d'espoir à la fin, et un espoir qui est de se prendre son destin en main. Et ce destin en main, c'est ce que raconte Lajli, quand on se prend à Montfermeil, il dit, si on n'était pas descendu dans la rue, s'il n'y avait pas eu les événements de Clichy-sous-Bois, jamais l'État se serait penché sur l'État et que ce qui s'est passé en 15 ans, oui, c'est de l'argent de l'État, mais cet argent, il est arrivé que parce qu'il y a eu une révolte. Et en fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce que cet appel à l'espoir est aussi un appel à la révolte.
Catherine Ball.
Ben moi, j'ai vu le film, voilà, comme Laurent Carpentier du Monde, à Cannes, au Festival de Cannes. C'était le premier film français projeté en compétition. Ça a été une claque absolue. C'est un film qui est extrêmement fort, qui a d'abord un rythme incroyable. Il commence, c'est une déambulation dans la cité. On a les trois flics de la BAC dans une voiture, et puis les deux anciens font un petit peu le guide touristique au petit nouveau, qui est le spectateur. Et voilà, il y en a 40 minutes comme ça de la vie quotidienne de policiers de la BAC. C'est extrêmement bien écrit, ça vanne, c'est drôle. Et puis à la 40e minute, il y a une étincelle. Et là, c'est une espèce de montée en puissance. L'angoisse monte, le film se termine dans un entonnoir. Voilà, c'est d'abord un film qui a un rythme incroyable, extrêmement efficace, qui prend aux tripes, qui a des personnages hyper cinégéniques, hyper forts. C'est incroyablement interprété par des acteurs professionnels, mais aussi plein d'habitants de Montfermeil qui n'avaient jamais été sur un plateau de cinéma. Il y a Damien Bonnard, il y a Alexis Manenti et Djibril Zonga parmi les comédiens professionnels qui sont formidables. Et évidemment, c'est un film qui a beaucoup de fond, qui dit beaucoup de choses.
Et pour vous trois, en tout cas, vous êtes tous d'accord que c'est la raison du succès du film, d'unanimité critique, c'est sa force, c'est son énergie et c'est son propos.
C'est un très bel objet cinématographique. C'est vraiment un film qui est techniquement, pour moi en tout cas, très réussi, super bien mis en scène, très bien interprété et qui en plus raconte quelque chose. C'est un regard.
Et une fois de plus, je reviens sur le court-métrage. Moi, j'ai été fasciné parce que justement, j'avais eu le court-métrage qui m'avait donné un coup de... J'avais eu un coup de cœur pour ce court-métrage et que je trouvais très fort et c'est intéressant parce qu'il me dit comment il va faire un long-métrage à partir d'un court-métrage. Et en fait, c'est pas du tout la même histoire. Il fait du cinéma. C'est-à-dire après... On aime ou on n'aime pas, mais c'est mené, c'est écrit, c'est scénarisé. C'est pas la même histoire. Dans le court-métrage, c'est le nouvel arrivant qui commet la bavure. C'est pas l'ancien. Des choses changent. Mais il y a le même question, moi, qui me paraît très importante. On a chacun d'entre nous, je pense qu'on va y venir, une expérience de la banlieue, de la cité, de ce qu'on a rencontré. Je signale quand même qu'autour de la table, nous sommes tous blancs. Il y a des femmes, mais je veux dire, en représentation, on n'est pas dans la minorité, là. Mais on a tous notre expérience qui est relativement distante, même si on y a vécu.
Oui, j'habite au Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Excusez-moi d'être blanche, bien que je récupère mes points en étant femme, alors... mais j'en cumule d'autres en vivant au Seine-Saint-Denis. Alors... Désolée. Hein.
Ouais. Je vais vous donner la parole, Anne-Sophie Nogaret, puisque vous êtes la voix discordante dans
Tout
ce cœur.
Tout à fait.
Vous avez écrit sur votre blog, d'abord sur le film lui-même, comment un film aussi médiocre facture a-t-il pu déclencher une telle avalanche d'hyperbole ? Aurait-il échappé aux critiques que le scénario, alors que le film, ce quasi-documentaire, frôle l'invraisemblable ?
Alors, oui, donc j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout vu le même film, enfin, et en lisant les critiques qui déjà me semblaient très suspectes par cette unanimité totalement inédite dont vous avez parlé en tout début. Donc j'ai été voir le film, par-delà, on va dire, le contenu du film, si je regarde simplement la forme, pour moi, ce n'est pas un travail, enfin, je n'ai rien, mais rien vu qui justifie les critiques dithyrambiques qui ont été écrites. Bon, donc il n'y a aucune inventivité cinématographique en dehors de filmer d'en haut par un drone. Bon, voilà ce qui est répété à plusieurs reprises. En dehors de ça, très franchement, je n'ai rien vu en termes de mise en scène qui me bouleverse particulièrement. Et surtout, ce qui, et d'ailleurs les gens riaient dans la salle, en termes de direction d'acteurs, c'est une catastrophe. C'est-à-dire de faire appel à une partie de non-professionnels, bon, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut avoir un sacré
talent.
Comment
vous expliquez qu'un si mauvais film ait eu un tel succès ?
J'aimerais énormément avoir la réponse à cette question, justement.
C'est intéressant.
Voilà. En tout cas, ça ne peut pas justifier. Les dialogues sont d'une lourdeur. Mais d'une lourdeur.
Alors, vous citez un des dialogues, une des phrases prononcées par un des religieux du film. Mais qui es-tu pour vouloir mettre le lion en cage ? Sais-tu ce que dit le lion lorsqu'il rugit dans la savane ? Il remercie Dieu.
Oui, bah voilà. Oui. Donc je comprends qu'avec des phrases comme ça, quand on n'est pas acteur professionnel, on a un peu de mal. Donc il n'y a pas de direction d'acteur. Les dialogues sont sursignifiants. Enfin, c'est extrêmement lourd. Alors, donc cinématographiquement, oui, je maintiens. Et j'attends d'ailleurs, puisque tout le monde a aimé, qu'on me donne un seul élément concret de mise en scène.
Toute la fin du film, par exemple, qui est donc c'est un film qui est construit en entonnoir avec la tension qui monte et je vais spoiler, hein, je suis désolée, mais cette fin du film dans une cage d'escalier avec des dizaines de gamins qui n'ont jamais joué et qui sont, je la trouve formidable cette scène, je la trouve magistralement mise en scène.
C'est la moins pire du film, en effet.
Toutes les scènes de vie quotidienne des policiers de la BAC, je trouve ça au contraire super bien écrit. Je trouve que les répliques, elles fusent, qu'on est vraiment avec eux, avec leur humour de vestiaire, leur blagues macho cru.
Il y a plein d'autres films où il y a ça, authentique. N'importe quel téléfilm, vous avez ça aussi.
Et c'est pas toujours aussi bien fait.
Alors attendez,
j'ai entendu personne ricaner.
Il y a quand même deux, trois questions que moi je me suis posées en voyant le film, pour intervenir une seconde, sur ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas à Montfermeil, en tout cas dans la banlieue, dans la cité qui filme. On voit très peu de femmes comme personnages actifs.
Non, je ne suis pas sûre que dans l'espace public à Montfermeil, les femmes soient majoritaires.
Ah oui, mais
elles sont là, quand même.
Oui, mais elles, on les voit passer, mais elles ne sont qu'elles n'ont pas de rôle. Non, mais bien sûr, mais le travail du cinéaste n'est pas forcément de rester dans l'espace public, justement.
Bah, parce que le moment où il faire un film réaliste.
Vous les voyez dans les appartements, vous les voyez entre elles.
Oui, mais il pourrait montrer ce qui se passe, par exemple, un peu dans les familles. Ça n'apparaît jamais.
Il y a la tontine à un moment, il y a une scène où.
Oui, la tontine.
Oui, très très peu. C'est vraiment pas. Un peu comme La haine, c'est un film de mecs.
Tout à fait. Oui, mais ils disent d'ailleurs qu'ils ont eu du mal au CNC. Au CNC, quand ils sont allés financer le film, on leur a dit, attendez, les flics sont pas très sympas et en plus, il n'y a pas de femmes. Ils ont dit, mais en fait, on fait un film sur Montfermeil.
Donc, et il n'y a pas de femmes à Montfermeil.
Si, bien sûr qu'il y a des femmes. Ouais. Mais dans l'espace public, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Effectivement, les femmes sont plus dans les espaces
c'est
privés, sorties, à la
c'est
maison.
C'est les sorties d'école. C'est le voilà. marché.
Oui, mais c'est pas intéressant.
C'est,
pas,
c'est, le, d'un c'est point de la, vue, la cellule
d'un
domestique.
D'un point de vue strictement artistique, c'est pas intéressant pour un cinéaste de dépasser la surface, d'aller.
Oui. Moi, je suis en train de faire un portrait de Florence Pugh, oui, qui est en train de jouer dans Les Quatre Filles du Docteur March. Je l'ai rencontrée la semaine dernière. Elle joue dans un film qui s'appelle, que vous pouvez voir sur Netflix, qui s'appelle Le Roi Outlaw, The Outlaw King, Le Roi hors la loi. Elle est la reine. Elle explique qu'elle est la seule femme. Sur tout le film, ça se passe en Écosse, en 1300, elle est la seule femme. Personne n'a été voir le réalisateur ou Netflix ou je sais pas quoi en disant « Comment ça se fait là? Vous êtes dans des guerres en Écosse, il n'y a qu'une femme, c'est pas intéressant d'aller au-delà de cette réalité. » Pourquoi est-ce qu'à partir du moment où Lashley habiterait dans une cité, etc., on lui demande de faire un film qui serait un film documentaire, politique, qui dépasserait ça? Qu'est-ce qu'il fait Lashley? Il fait ce que tout cinéaste, là je cite Serge Danet, il filme de là où il est. Et c'est le plus important. Et il filme ce qu'il voit. Et tous les éléments de langage, tous les éléments d'image qu'on voit dans le film, c'est ce que lui raconte. Et il raconte une histoire. Il raconte une histoire avec son background à lui. Il raconte pas l'histoire que nous, on voudrait qu'il raconte parce que ça serait un enfant des cités et qu'il devrait être plus grand. Non. Et
mais le regard pas exactement ça. Pas vraiment la question. Je me permets d'intervenir. Justement, donc effectivement, vous avez raison. Ce qu'il décrit correspond à ce qui existe. Là,
on est d'accord.
Il n'y a aucun doute sur
De même que dans J'accuse, il n'y a pas beaucoup de femmes, si je peux me permettre. C'est un film sur l'armée.
Là, on ne parle pas de J'accuse, on parle des Misérables.
Qui est la maîtresse. Donc, qui est dans l'armée.
Là, documentairement, c'est juste. Ce qui est en revanche discutable, c'est pas d'exiger qu'il y ait un quota de femmes, parce qu'effectivement là, c'est pas plus intéressant. Et c'est de l'idéologie en barre et c'est tout. Et ça n'a aucun intérêt artistiquement. Mais en revanche, effectivement, un artiste et même, je dirais, même un documentariste. À partir du moment où il sait cette réalité-là, mais le truc, c'est qu'il ne doit pas rester collé à cette réalité-là. Et ce qu'on peut reprocher à Lashley, c'est que lui, là, en l'occurrence, il reste collé à ça, il n'a pas de distance par rapport à ça. Je parle même pas qu'il le critique ou quoi, c'est pas l'objet de la question. Mais il aurait pu avoir une façon, justement, s'il avait eu des idées de mise en scène, etc., où d'une certaine façon, il va au-delà de cette réalité-là, sans avoir un discours dessus idéologique à plaquer. Mais voilà, et il ne le fait pas, ça veut dire simplement une chose, c'est qu'il est collé à son objet, qui est aussi son sujet, et qu'il n'a pas de distance par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, je remets en cause le fait qu'il ait fait un travail artistique, parce qu'un artiste, quelle que soit la façon qu'il utilise, que ce soit la forme, que ce soit, et sans idéologie, je précise, puisqu'il n'est pas question qu'il ait des quotas de femmes ou de ceci ou de cela, il doit avoir une distance, et cette distance-là, elle n'est pas là.
Alors, pour avancer un petit peu, un des points qui est montré et pas montré en même temps dans le film, c'est le rôle des religieux, c'est le rôle des salafistes.
Donc effectivement, moi, ce qui m'avait frappé, par-delà le manque de qualité du film, c'est le fait que personne dans tout ce concert de dithyrambes n'est vraiment parlé de ce qui apparaît pourtant assez clairement, qui est le rôle, alors, en fait, des salafistes. Et là, je me réfère uniquement aux interviews de Lashley lui-même, celle qu'il a donnée à France Inter à Vébétan au mois de mai, et celle qu'il a donnée au Bloc du cinéma et qui a disparu dans les limbes, mais que j'ai récupérée depuis. Donc je me fie uniquement à son discours à lui sur son propre film. Donc là, ce n'est pas mon interprétation de fasciste écrivant à causeur, c'est ses propos à lui.
C'est une blague. C'est pas le sujet. Hein.
Voilà. Donc, lui-même a un propos, c'est-à-dire Eva Bétan, au mois de mai, lui dit, voilà, alors le rôle des islamistes dans le film. Et lui, il la reprend en faisant un amalgame, pour le coup, que je trouve énorme. Il dit, non, je n'utilise pas ce mot d'islamiste, ce sont des musulmans. Mm-hmm. Alors, et là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est très gênant, puisque on crie souvent à l'amalgame pour tout et n'importe quoi, et là, lui en fait un qui est quand même énorme, donc il dit musulman égale salafiste. Alors certes, les salafistes sont des musulmans.
Il dit que dans son film, ceux qui met en scène sont Catherine pas Mal. Des intégristes. Oui, mais là, ce sont des frères muses.
Non, ce sont des salafistes. Barbu, je sais, j'habite à côté d'une mosquée salafiste, je sais les reconnaître.
Des salafistes. Ceux qui met en scène, ils n'envoient pas des gamins au djihad, hein.
Mais tous les salafistes n'envoient pas les gamins au djihad.
Non, mais enfin, ce sont justement ceux qui ont effectivement ils montrent certains religieux salafisme. Qui sont, oui, enfin, Lajli met en scène dans son film des religieux qui sont effectivement hyper paisibles, c'est on va dire un peu des animateurs sociaux. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ce sont religieux qui la fréquentaient à Montfermeil.
Je voudrais poser la question.
Non, mais je termine juste. Cet amalgame qu'il fait pour dire les salafistes, c'est-à-dire je ne vais même pas discuter des points doctrinaux du salafisme. Un salafiste, pour moi, la définition la plus immédiate, c'est quelqu'un qui porte une certaine tenue, qui l'identifie immédiatement comme appartenant à une lecture rigoriste de l'islam. Daesh et tout ça, j'en sais rien.
On va pas faire un débat
simplement,
sur l'islam. Hein,
mais simplement, lui dit... Salafiste et musulman, c'est pareil, ce n'est pas du tout pareil. Donc il fait un gros amalgame qui est en faveur d'une lecture rigoriste de l'islam.
Xavier Lemoine, les islamistes ou les musulmans qu'on voit dans le film, qui sont-ils? Puisque vous êtes maire de Montfermeil, est-ce que vous...
D'abord, ils existent. Deux, ils peuvent effectivement fréquenter un des lieux de culte qui peut être apparenté à une lecture plus rigoriste de l'islam. Oui. Trois, ils ont eu un rôle... Mais pas que, puisqu'il y avait des prêcheurs itinérants qui venaient, je dirais, par groupe d'une dizaine, et qui venaient justement essayer de récupérer, lorsqu'on était sur des drogues dures, et vraiment d'essayer de faire un travail de fond en direction des familles et en direction des jeunes qui étaient tombés dans la drogue dure. C'était dans les années 90-2000, ça, Lilaj le dit également, et c'est vrai. Depuis, les choses ont considérablement évolué, et ça fait très longtemps qu'on n'a plus de morts par overdose, alors qu'on en avait énormément dans ces années-là. Et ils ont eu un travail. Ils continuent d'avoir un travail d'encadrement d'une partie de la population. En tout cas, ils sont là, ils sont présents, ils interviennent dans la vie sociale, ils interviennent de plus en plus dans la vie éducative, dans la vie sportive, etc. Enfin, c'est tout le
mouvement. Cet encadrement s'accompagne-t-il de propagande ?
Où commence la propagande, où la finit. En tout cas, on sait ce à quoi ils se réfèrent. On connaît les règles de vie qu'ils s'imposent à eux-mêmes et qu'ils souhaitent qu'un certain nombre de personnes suivent. Et c'est toute la tension et toute la dialectique qu'il y a actuellement dans nos villes entre cette tentative d'organisation de la société sur des préceptes, je dirais, liés à l'islam, au Coran, et, je dirais, la République qui, sur le sport, qui sur les études, qui sur...
Donc on est d'accord, il s'agit bien de... Dans le film, ce qu'on voit, ce sont bien des militants d'un islam politique. On est d'accord.
Islam politique, il n'est pas forcément là où on croit. Ah. Et il n'y a plus... Il n'est pas forcément dans les... Enfin, pour reprendre ce que disait Mme Nogaret, il y a des signes vestimentaires qui ne trompent pas. Il y a une lecture rigoriste, mais qui n'est pas forcément politique en termes politiciens. L'islam politique, on peut davantage le trouver sur la classe moyenne que vous voyez en costard-cravate la semaine et qui, eux, je dirais, sont dans une autre dimension, dans une autre temporalité et qui est véritablement politique, électorale, etc. Et là, on est sur plus de l'influence culturelle que... qui compte, parce que c'est de la politique quelque part, que sur le débat électoral. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça. Et encore une fois, c'est une histoire d'il y a 15 ans qui s'est transformée aujourd'hui. Et les rapports de force ou les jeux d'acteurs ne sont absolument pas
les mêmes. Ils font partie de vos interlocuteurs.
Mais je les connais, ils habitent à côté de chez moi, je les croise tous les jours.
Non mais dans la vie municipale, dans votre travail de maire, je veux dire.
Dans mon travail de maire, ce sont des interlocuteurs, ce sont des gens que je côtoie. Ils savent ce que je pense, je sais ce qu'ils pensent. Il y a une forme de respect, mais personne n'est dupe, je dirais, d'un certain nombre de sujets. Mais en même temps, ils sont là. Ils sont là, de toute façon, ils sont là dans les associations, ils sont là dans le sport, ils sont là dans la culture, ils sont là, je dirais, dans les quartiers. Et c'est un élément, je dirais, des quartiers.
Donc, et à votre avis, est-ce que ça a à voir avec le fait que les femmes, justement, ne sont pas dans l'espace public?
Alors, on rentre sur un autre sujet. Moi,
vous dites qu'ils organisent, d'organisation sociale. Donc, dans cette organisation sociale, est-ce que ça implique effectivement la mise un peu en retrait des femmes?
Lorsque vous êtes sur des barres de 10 étages, lorsque effectivement vous êtes dans des cages escaliers où vous avez 150 divisé par 3, ça fait donc 50 logements par cage escalier, eh bien la pression sociale que vous pouvez avoir sur les gens est importante. Lorsque vous démolissez tout et que vous reconstruisez des petits immeubles, des petites résidences de 50 logements maximum sur 4 étages avec 2 cages escaliers, voire 3 cages escaliers, et que dans la cage escalier, il n'y a plus que 10 personnes. La pression sociale que vous avez sur les personnes ne s'exerce absolument pas de la même manière. Et à ce moment-là, vous retrouvez une liberté, et donc la place de la femme dans l'espace public, à cette époque-là, il est comme ça. Aujourd'hui, vous revenez dans nos quartiers qui ont été entièrement reconstruits. Les choses sont tout autres, parce qu'il y a une réappropriation de l'espace public, et c'est beaucoup plus facile, je dirais, de s'émanciper de cette pression sociale. Elle existe, mais elle est beaucoup plus difficile à s'exercer dès lors qu'on a redonné, par ailleurs, par la qualité de l'architecture de l'espace public et de l'urbanisme, dignité et fierté aux personnes. Et là, ils peuvent davantage s'émanciper. Quand vous accompagnez cela de cours d'apprentissage de français systématique, en étant assez insistant vis-à-vis des personnes, pour qu'elles puissent justement être par elles-mêmes poser des actes beaucoup plus facilement que de passer par un tiers parce qu'il y a l'obstacle de la langue. Eh bien, ça permet à ces personnes-là beaucoup plus facilement de s'émanciper, totalement ou partiellement, de la pression de la communauté. Lorsque les enfants sont plutôt sur un dispositif de réussite scolaire, parce que vous avez pris les choses dans le bon ordre et suffisamment tôt, eh bien, vous avez plus de chances de les emmener vers des centres d'intérêt qui concourent à leur épanouissement personnel que dans une espèce de rancœur, d'échec, etc., qui est tout de suite exploité et repris en main par ou les dealers ou les prêcheurs. Bien. Et donc, tout ça, c'est 15 ans de travail. Donc c'est pour ça que je dis c'est un film d'espoir et il était vrai il y a 15 ans et donc oui, il est encore vrai dans un certain nombre de quartiers en France et c'est toute la difficulté.
Mais à Montfermeil, il fait référence au passé plutôt.
Mais tout à fait, et les choses ont changé.
Sur les religieux, je ne comprends pas très bien ce que vous reprochez à l'Adjli, parce que moi, je n'ai pas l'impression que les religieux, dans le film, ils aient le beau rôle. C'est-à-dire qu'à la fin du film, autres adultes, ils abandonnent les gamins exactement comme les flics, les dealers.
Non, c'est pas tout à fait vrai, puisque le Almani Kanouté, qui appartient, donc, comme j'ai dit dans mon article, à la brigade antinégrophobie, enfin.
Qui joue dans le film.
Je vous laisse vous renseigner sur ce mouvement. Donc, il a quand même une figure. Quand même une figure tutélaire d'homme d'ordre, de paix, de tranquillité. Il est quand même mis en scène un peu comme un pilier fiable sur lequel éventuellement bâtir.
Mais je voudrais intervenir un peu. Moi, je suis pas critique de cinéma. Je suis reporter. La première fois que je suis parti dans les banlieues, c'était en 94 à Sartrouville. Ça brûlait, le carrefour brûlait, etc. Effectivement, la situation qui se passait, c'est que les mecs qui tenaient le club de judo, c'était les frères musulmans, c'est eux qui ont apporté la paix dans la cité, c'est eux qui viraient les dealers des cages d'escalier, c'est eux qui rassuraient la cité. Je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça qu'ils ont gagné sur ce terrain-là. Et ce que je trouve très bien raconté dans le film de l'Adjli, et je pense que c'est pour ça qu'il est intéressant aussi, c'est comment, et c'est déjà là, je répète, dans le court-métrage, c'est comment tout ça est imbriqué. C'est-à-dire comment, effectivement, tous les lieux de pouvoir s'associent d'une certaine façon, enfin, se deal, font des deals en permanence, et tout repose, tout le suspense du film, car il y a un suspense dans le film, repose sur l'interaction entre les dealers, les frères musulmans ou si vous voulez que ce soit des salafistes, prenez que ce soit des salafistes, les gitans qui ont aussi leur légitimité, c'est-à-dire les flics, la mairie, le maire, tous ces systèmes-là concordent, se tiennent les uns les autres pour essayer de faire en sorte d'avoir un vivre ensemble. Et le vivre ensemble aujourd'hui, c'est, comme vous en faites l'expérience, monsieur Lemoine, c'est effectivement de dealer avec son ennemi, de dealer avec le mec d'en face, de dealer pour que un certain équilibre, sachant que l'équilibre, ça existe difficilement, un certain équilibre existe. L'autre chose que je voulais dire, c'est quoi un film ? Un film, c'est un cadre, c'est un scénario, c'est une histoire qu'on amène d'un bout à l'autre, c'est des images. Ben voilà, Les Misérables, c'est un film. C'est un film, on peut y trouver des défauts, on peut y trouver des qualités. S'il est sélectionné à l'Oscar, c'est pas uniquement parce qu'il a fait 2 millions de vues en France, c'est parce que d'une certaine façon, il plaît à un certain public. Et ces 2 millions de personnes, c'est pas la presse. Pourquoi cette presse serait unanime? Pourquoi est-ce que quand c'est unanime, ça serait pas bien? Si la presse faisait rentrer au cinéma, ça serait depuis longtemps. Je veux dire, si c'est tous ces gens.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet de sidération sur ce film?
Je pense qu'il peut y avoir un effet de sidération. lorsque je reviens sur la projection devant les 600 Montfermeillois, il y avait des personnes qui habitaient le quartier et d'autres qui habitaient le pavillonnaire. Bien. Les gens du pavillonnaire sont venus en pleurant me dire « Monsieur le maire, mais c'est très violent, ça n'a pas été comme ça ». Moi, j'habite à 50 mètres du quartier. J'ai dit, si, en 2005-2006, c'est ce que réellement nous avons vécu. Mmh. Voilà. Donc, dans la même ville, les réalités vécues, selon que vous êtes au cœur de ce qui se passe ou à quelques centaines de mètres, sont déjà diamétralement opposées. Enfin, la perception n'est plus du tout la même. Je pense qu'il y a, dans le public qui y va, et au regard des retours que j'ai, des gens qui me disent, j'y suis allé, etc. Ce sont des publics qui ne sont pas directement intéressés, mais qui sentent bien qu'il y a un sujet, et qu'il y a un sujet dont ils n'ont pas pris la mesure. Et ce film est finalement un révélateur un peu brutal, mais salutaire, me semble-t-il, d'une réalité qui a été traitée, circonscrite dans les quartiers par des politiques diverses et variées, mais avec de véritables enjeux de société. Et là, il y a une prise de conscience, et brutale, mais salutaire. Voilà, il y a une espèce de sidération. Et donc, tant mieux qu'un grand nombre de personnes viennent le voir, pour bien prendre conscience de la nature et de l'intensité des enjeux qui sont en cours actuellement sur notre pays.
Alors, je voulais répondre à monsieur, puisque mon amertume... Alors, je vous rassure, je ne suis pas amère, simplement, je suis préoccupée. C'est-à-dire, la réalité qui est montrée dans le film, on la connaît, il y a eu plein de films avant. Enfin, personne, il faut arrêter de nous dire qu'on l'a découverte avec ce film, ce n'est pas vrai. Il y a plein de reportages, il y a eu plein de films, je ne vais pas les citer, mais bon, c'est une réalité qui n'est pas...
C'est intéressant, c'est quoi les bons films sur la banlieue genre.
Je suis le fil de mon propos, donc je suis inquiète aussi de ce qui est décrit dans ce film, et qui existe, ça je ne mets absolument pas en doute sa dimension documentaire, mais ce que vous décrivez tout à l'heure, quand vous avez dit, voilà, c'est des territoires, on est obligés, les uns deal avec les autres, etc., voilà. C'est ce qu'on appelle du tribalisme, c'est-à-dire le maire dont vous parlez, c'est pas un vrai maire, c'est-à-dire c'est pas l'institution de la mairie qui est là, c'est le maire autoproclamé du quartier, qui est une espèce de caïd local. Et effectivement, les seuls membres d'une institution qu'on voit, ce sont les policiers de la BAC qui sont là, les trois. Et sur les trois, il y en a quand même un qui est le chef et qui est un peu limite du point de vue moral, on va dire. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que ce qui est décrit et qui est vrai, ça s'appelle le tribalisme. C'est-à-dire que la République, finalement, n'existe que sous la figure de sa police qui elle-même est dépassée, etc. Et que ce qui correspond aux politiques au sens large, effectivement, relève de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire des petites négociations entre les gitans, les dealers, les salafistes. Voilà. Et donc, moi, c'est ça qui me rend non pas amère, mais inquiète.
Ah, ça s'appelle...
La politique.
À l'échelle mondiale, ça peut s'appeler aussi le clientélisme.
La politique...
Mais avant de finir cette émission, je voudrais quand même éclairer... parce que le film est quand même éclairé par certains propos de l'Ajli, d'une part, et par l'article que vous venez de sortir, Anne-Sophie Nagaret. Quand l'Ajli dit dans cette interview, qui a été, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, retiré du blog du cinéma...
Parce qu'il insultait Zineb El-Razoui.
Oui, il déclare, effectivement, il insulte Zineb El-Razoui en la traitant de connasse et en disant que c'est elle la première terroriste. Et il dit aussi, venez voir comment ça se passe dans les banlieues, vous verrez que personne ne force à rien, c'est à propos du voile, ce sont des femmes qui s'assument, qui sont libres. Donc là, on a un propos qui est directement engagé, doublement engagé. Les femmes ne sont forcées à rien, elles sont libres de porter ou de ne pas porter le voile. Et puis par ailleurs, il y a ce que vous venez de publier dans Causeur. Il s'agit de, si vous voulez le rappeler, Anne-Sophie Nagaret.
Donc oui, en fait, c'est la sœur de Ahmad Lee qui a eu une relation avec quelqu'un
qui n'est pas du tout de la famille de l'Adjli.
Non, c'est pas la même famille.
C'est un ami, c'est pas la même famille.
Qui a une relation avec un cousin.
Voilà,
et ce cousin va se faire enlever.
La jeune femme s'est fait elle-même tabasser en fait par son frère, et donc Ahmad Lee a ensuite été chercher un de ses frères et l'Ajli pour faire une expédition punitive. Donc, ils ont été...
Il y a plusieurs versions. Il y a la version qui dit que l'Ajli est directement complice. Il y a la version donnée par Le Parisien qui dit que au procès, l'Ajli a clamé son innocence, qu'il a tout fait pour éviter qu'il y ait des violences. La question et qu'il a eu comme témoin de moralité à l'époque, Costa Gavras notamment, puisqu'il était ami avec le fils de Costa Gavras. La question que je me pose et qui concerne le film, puisqu'on n'est pas là pour faire une enquête policière, c'est pourquoi, quand Lajli fait un film sur les banlieues, sur Montfermeil, il choisit de ne montrer de ces banlieues comme cause de la violence un enfant qui enlève un lionceau, et jamais le type d'incident dont il a été au minimum témoin, c'est-à-dire cette histoire, ou une histoire similaire, parce que ce n'est pas la seule. Pourquoi ce type de problématique n'apparaît absolument pas? Pourquoi on a simplement une banlieue avec des gens, des garçons gentils qui ont les des lionceaux, et puis de l'autre côté...
Enfin, ils ne sont pas que gentils, hein, quand même.
Ils sont quand même très, très mignons.
Oui, c'est quand même...
Ils sont quand même très mignons.
Les gamins, excusez-moi.
Moi, j'ai l'autre... Oui, mais parce qu'ils sont poussés à bout par les méchants policiers.
Il aurait été obligé de mettre en scène sa propre...
Non. Je ne dis pas qu'il aurait dû mettre en scène son histoire. Mais pourquoi ce type d'histoire dont il est au minimum le témoin, c'est probablement pas la seule, il y en a d'autres, n'apparaît jamais, même ne serait-ce qu'en fond.
Mais parce que ça pourrait être un autre film. C'est un film. Pourquoi est-ce que
je posais la question autrement. Pourquoi est-ce que les films qui ont marqué le cinéma français sur la banlieue, La Haine, notamment, celui-ci, ne mettent jamais...
La Faute à Voltaire,
mettent en scène le plus souvent des problématiques exclusivement masculines de pouvoir.
Divine, ce qui met en scène sur la banlieue, c'est pas du tout la même chose. Ça se finit un peu de la même façon. C'est un peu un film parallèle, mais c'est des femmes, justement. Il n'y a pas cette problématique-là. Peut-être parce que la réalisatrice est femme. Je voudrais renvoyer, moi, une autre question. Sur ce qui concerne ce pourquoi Lajli a été condamné, on est en train de vérifier tout ça. Mmh. De toute façon, je pense qu'une enquête, c'est pas 18 lignes dans un journal comme c'est dans Causeur, hein, ou dans Valeurs Actuelles. C'est un certain nombre de règles qui sont respectées chez nous, d'équilibre du discours. On voudrait effectivement savoir pourquoi il n'en a pas parlé, sachant que la police allait sans doute, ou quelqu'un le dirait, puisque c'est il a été condamné, l'autre, surtout qu'il a été condamné. Il a fait un an de prison car il a fait appel. Il a été condamné, non pas pour tentative de meurtre, d'après ce qu'on sait du procureur de Bobigny pour l'instant, mais pour séquestration. Voilà, ils ont emmené le mec dans la bagnole, etc. Il a eu un an avec sursis et un an de prison. Bon, il a fait sa peine.
Xavier Lemoine, vous connaissiez cette histoire?
Bon, cette histoire, je la connais bien évidemment pour différentes raisons. Acte 1. Acte 2, moi je dissocie radicalement le film de ce qu'a pu dire ou faire, par ailleurs, Lilaj. Alors, ce qu'il a pu dire sur son film à l'occasion d'interviews, interviews qui ont disparu, j'estime, à titre personnel, que ça dessert considérablement son film. Mais ça n'engage que moi. Pour ce qui est de ces autres actes dont on parle en ce moment, moi, je les connais, mais je n'en fais pas mention, puisque je dirais le film n'a pas de rapport avec ça, et je ne souhaite pas en établir. Mais je voudrais reprendre votre question telle que vous la formuliez, et la prendre un peu en biais. Ce que je peux reprocher dans certains propos, c'est ce misérabilisme et cette... on n'en a jamais fait assez pour les banlieues, etc. Et donc, toutes les exactions qui peuvent exister sont justifiées par le fait que la société n'en a pas fait suffisamment. C'est un peu le petit refrain qui sort. Rien n'était fait, c'est toujours aussi explosif, etc. Bon, ça, il faut en sortir. Et il faut y compris que les gens des banlieues sachent en sortir. Parce que là, ils instaurent une dialectique qui est sans fin. Moi, ce que je dis, c'est que la République française n'a pas à rougir de ce qui a été fait, et on va dater les choses depuis Borloo. Parce que là, on a changé de braquet.
Évidemment, Borloo.
Non mais, attendez, pour moi, je le tiens pour le plus grand ministre de ces 40 dernières années, et que s'il n'y avait pas eu Borloo et l'Agence nationale de renouvellement urbain, on ne serait peut-être pas dans le studio à en discuter de la même manière. Parce que je pense que notre pays serait dans un tout autre état, et qu'il a, pour le moment, sauvé la paix civile grâce aux actions qu'il a pu permettre. Donc, on n'a pas à rougir de ce qui a été fait. Et une fois qu'on n'a pas à rougir, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher effectivement ce qui dysfonctionne de l'autre côté. Rappelons toi-même tout ce qui a été fait, et qu'à partir de tout ce qui a été fait, on ait le droit effectivement d'exiger un certain nombre de comportements plus exemplaires que ce que l'on peut avoir des fois dans nos quartiers. La ville de Montfermeil, il y a 15 ans, c'était la cinquième ville la plus insécure de Seine-Saint-Denis. 15 ans après, c'est la cinquième ville la plus sécure. Il y a 15 ans, j'étais dans le dernier tiers en termes de niveau scolaire de la Seine-Saint-Denis. 15 ans après, nous sommes dans le premier tiers. Donc là aussi, une réalité qui peut-être est encore de mise aujourd'hui dans certains quartiers en France, mais en même temps un travail considérable que la République française a fait, tout le monde a fait, qui permet d'asseoir des réalités, des résultats. Que ce film nous dise « le travail n'est pas fini, il y a encore à faire, et à la limite, soyez peut-être plus exigeants dans ce qui reste à faire et dans ce que vous avez à nous demander », c'est la leçon que je tire de ce film-là, et je suis très heureux qu'il y ait 2 millions de Français, et j'espère beaucoup plus dans les semaines qui viennent, qui vont bien voir de quoi il en retourne, et que peut-être ce sera plus facile pour le politique d'aller continuer la politique de la ville notamment, puisque c'est de ça dont il s'agit quand même avec Jean-Louis Borloo et ses successeurs.
Je comprends personnellement que tu dises, Marc, que il y a une vraie question qui se pose par rapport à ce qu'il a fait. Il faut sortir la vérité, il faut dire les choses. Absolument. La question, c'est pour que veut dire la juxtaposition de cette interview où il a insulté quelqu'un. Qu'est-ce qu'on essaie de dire quand on dit « Ah ben, les femmes sont pas présentes ». Quand on juxtapose cette information plus le fait qu'il est poursuivi, est-ce qu'on est vraiment en train de parler du film ou est-ce que d'une certaine façon, on est en train de stigmatiser quelqu'un? Parce que, enfin, je veux dire, c'est cette juxtaposition d'informations.
Non, il me semble que citer quelqu'un n'est pas le stigmatiser.
C'est non, juste mais c'est la juxtaposition des
oui,
trois.
C'est le fait de relier des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
De mettre en évidence la cohérence de l'adjli.
C'est de relire le film à l'aune de ces informations.
Et moi, dans tas d'autres propos, je dis, je m'en suis sorti grâce au cinéma.
Je posais simplement la question sur les sources d'inspiration, c'était pas une façon de stigmatiser, de poser des questions sur ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas.
Justement, il y avait des injures qui paraissaient, on se disait forcément, un mec qui injure, et puis qui en plus a participé à une action violente répréhensible, et qu'il ne s'agit pas d'excuser absolument, mais dont il faut vérifier les faits. Et est-ce que c'est comme le sous-entend causeur, parce que c'était la charia, parce qu'elle portait pas, je vous signale
mais
que la femme.
C'est un crime d'honneur, ce qu'il a fait.
On
va s'arrêter là.
La femme de l'Algérie ne porte pas le voile, la sœur de la fille ne porte pas le voile. On est cette idée que au fond derrière ça serait le discours des frères musulmans ou je sais pas quoi qui serait véhiculé me paraît un peu n'importe quoi.
En tout cas, il n'est pas du tout véhiculé dans le film.
Now it's not what it seems. I just can't start to say. It was these evil days of pain and fear. Something was broke, my skin hard like a note, my mind hard like a note. I've got a history of violence. It's not written on my face. You wouldn't know it. It's buried in my leather case. I got a memory of violence. It's not written on my skin. You couldn't see it. It's a ripple. My grin, like the people of my kin, and now it's not what it seems. I just can't start to say it was these evil days of fate and fear. Something was broke, my mind hard like a note, my skin hard.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
The bruises and the sins don't wash away. It's not written in my name like a freckle on my skin. Memories from a broken home. The engine with no train.
moment I began to run away, James Dean. Shutter on the screen, duck curtain on the scene. He ran abreast, the weight inside the chest. Erasable race with no traceable trace. Such a fool of life, the devil in the eyes. Not written on my grave, not written on my grave, not written on my grave. You would have known where I'm buried safe and well behaved. I got a history of evil life. Got a history of evil life. God.